Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce lundi de Pentecôte, Franck Ferrand nous invite au bord de la Marne. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Quoi de plus printanier qu'une jolie guinguette au bord de l'eau? Vous connaissez la chanson? Nous allons nous plonger dans cette atmosphère pleine de charme en compagnie d'un grand spécialiste de la chanson populaire, Martin Penet.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laure sur l'origine de l'expression « toucher le pactole ».
Ah, ça, c'est ce que je vous souhaite, à vous, chère Ombline. En attendant, allons guincher en bord de Marne.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pourquoi parle-t-on de guinguette? D'où vient ce mot? Alors, il y a plusieurs étymologies possibles. C'est curieux d'ouvrir une émission par un retour aux origines, mais c'est un peu ça aujourd'hui. D'abord, ça pourrait venir de Pierre Guinguet, qui est censé avoir ouvert le premier établissement de ce genre. Mais le guinguet, autrefois, c'était aussi un petit vin léger, hein, une espèce de piquette. Donc la guinguette, ça pourrait être l'endroit, la buvette en quelque sorte, où l'on consommait du guinguet. Et puis, il y a aussi, ne l'oublions pas, le quartier de la guinguette aux Invalides, où un certain nombre d'établissements avaient été installés. Donc voyez qu'il y a plusieurs origines possibles à ce terme. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on parle de guinguette, on parle de la Marne, on parle du bord de l'eau quand on se promène au bord de l'eau.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Je trouve extraordinaire que le premier bal qui ait été ouvert au public l'ait été juste après la mort de Louis XIV. Vous savez, il y a eu ce grand règne où l'on a essayé de faire régner non seulement la morale, mais une certaine tenue dans l'ensemble du royaume. Et puis, Louis XIV vient à mourir et d'un seul coup, on a l'impression que les vannes sautent. Tout le monde fait la fête, le grand monde, bien entendu, dans les salons du palais royal, autour du régent, avec le champagne qui coule à flot, mais aussi le petit peuple qui va pouvoir, à partir du 31 décembre 1715, assister à des bals publics. Alors, les gens vraiment les plus modestes vont dans des cabarets où l'on boit, où l'on mange, où l'on danse. C'est ainsi que, peu à peu, vont se créer des espèces de buvettes, ce qu'on va appeler les premières guinguettes. Il y a un problème, néanmoins, c'est l'octroi. Qu'est-ce que c'est que l'octroi? C'est cette espèce d'impôt, vous savez, c'est cette taxe indirecte que perçoivent les municipalités sur les marchandises qui sont importées sur leur territoire municipal. Eh bien, cette taxe s'applique sur un certain nombre de produits, le café, l'huile, etc. et le vin, bien entendu. Or, l'administration de l'octroi chargée de prélever cette taxe contrôle chaque porte de ville où des barrières, qu'on appelle les fameuses barrières d'octroi, sont dressées. Vous comprenez pourquoi les premiers grands débits de boissons vont s'établir à l'extérieur, au-delà de ces fameuses barrières fiscales. Voilà ce que nous dit le dictionnaire universel de commerce de Savary des Brûlons. Il nous dit que les guinguettes sont, je cite, de petits cabarets établis aux environs de Paris, au-delà des barrières. Donc quand on dit les barrières, c'est les barrières d'octroi. D'où l'expression, d'ailleurs, vous savez, les voyous de barrières. Hein, c'était les voyous qui étaient là dans les zones un peu suburbaines, d'une certaine manière. Donc, petits cabarets, où le menu peuple, nous dit le dictionnaire, va en foule se divertir les dimanches et les fêtes, voyez déjà, à cause que le vin, j'aime bien l'expression, à cause que le vin, y coûte moins, ne payant point ou peu de droits d'entrée. Et du fait, de fait, les guinguettes s'installent dans un cadre champêtre, dans ces villages proches de Paris, je pense à la zone de la Courtille, une zone de jardin qui est située vraiment aux portes de la ville, hors de l'enceinte des fermiers généraux. Ces taxes sur le vin vont néanmoins essayer de poursuivre, si je puis dire, les débiteurs, et peu à peu, on va voir les guinguettes s'éloigner de Paris. En 1784, les collecteurs d'impôts qu'on appelle les fermiers généraux obtiennent la création d'une nouvelle zone fiscale qui incorpore les guinguettes. Les fraudeurs, inutile de vous le dire, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de contourner ce nouvel obstacle. Et alors notamment, il y a la construction de ces fameux tuyaux de fer blanc, hein, des pipelines par lesquels on va faire passer le vin. Vous imaginez, on envoyait aussi des ballons remplis de vin par-dessus les murs. Enfin, on cherchait tous les moyens possibles, imaginables, pour ne pas payer la fameuse taxe. Et puis, au cours du XVIIIe siècle, on voit se développer quand même des cabarets de forte réputation. Je pense à celui de Jean Ramponneau. Jean Ramponneau était le fils d'un tonnelier qui lui-même était marchand de vin. Il achète au milieu du XVIIIe siècle son premier cabaret qui s'appelle le Tambour Royal. Or, son vin est moins cher que celui de ses concurrents. Et l'on compte jusqu'à 1 millier de clients au beau jour chez Ramponneau. On y trouve le peuple, les bourgeois, les nobles, les ouvriers, les artisans, tout ce monde se mélange. Et en 1772, donc à la toute fin du règne de Louis XV, Ramponneau acquiert le cabaret de la Grande Pinte, où là aussi il vend le vin moins cher, d'ailleurs, ce qui le rend lui très populaire. Au XIXe siècle, la rue de Belleville sera rebaptisée rue Ramponneau. Vous imaginez un peu la popularité de cet homme qui est cité par ailleurs dans de nombreuses chansons, notamment une chanson assez connue de 1848 qui s'appelait « Le cabaret de Ramponneau ». Alors, dans les guinguettes, que ce soit chez Ramponneau ou ailleurs, on danse. Et ça va donner bien sûr à la guinguette sa tonalité, ça va lui donner sa spécificité. On danse quoi? Ben des petites danses faciles essentiellement, la contredanse, où les couples se font face et exécutent des danses. Un petit peu le lointain ancêtre du Madison, si vous voulez. Et puis à partir de 1800, on s'oriente vers le quadrille, qui lui est composé de 4 couples disposés en carré. Donc on danse le quadrille dans les guinguettes, on y mange de la matelote, qui est un ragoût de poisson cuisiné au vin, de la gibelotte, qui est la même chose mais avec du lapin à la place du poisson. Et bien entendu, on mène belle vie dans ces guinguettes très anciennes. Alors elles sont surveillées, bien entendu, inutile de vous dire que la préfecture de police est là, qui veille. Dans un des rapports des agents de police, un rapport de mars 1802, voilà ce qu'on peut lire. Les guinguettes et les cabarets des faubourgs ont été hier beaucoup plus fréquentés que de coutume. Le peuple et la classe ouvrière ont montré beaucoup de gaieté. Ils n'ont parlé que de la paix, de leurs travaux et du prix du pain qu'ils craignaient toujours de voir augmenter. Oh, il y a des choses comme ça dans l'histoire qui ne changent jamais.
Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre, d'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que 4 initiales et 2 cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos 20 carats qui depuis se sont fait la paire.
bal chez Temporel, la magnifique chanson de Guy Béard. Et vous avez bien compris que la musique va occuper une place de plus en plus importante dans cette histoire des guinguettes. L'accordéon est inventé dès 1829, mais il va lui falloir du temps. J'y viendrai tout à l'heure avec Martin Penet. Il va falloir du temps à l'accordéon pour s'imposer. Alors, on danse toujours, je vous parlais du quadrille tout à l'heure. Bientôt, on va se mettre à danser le chahut ou le cancan, une danse qui est jugée tout à fait vulgaire. Voilà ce que nous dit Littré dans son dictionnaire. Cancan, sorte de danse inconvenante des bals publics avec des sauts exagérés et des gestes imprudents, moqueurs et de mauvais ton. Mot familier et même de mauvais ton. Donc quand on dit cancan, c'est de mauvais ton, il faut le savoir. Les guinguettes, c'est vrai, mais c'est toute leur noblesse, j'ai envie de dire. Et c'est toute la force de leur histoire. Les guinguettes s'attachent de plus en plus à un public populaire et même très populaire. Les gens qui vont fréquenter les guinguettes de Suresnes, de Chatou, de Bougival, de Croissy-sur-Seine, de Rueil-Malmaison, etc. Et je pense par exemple bien sûr à la Grenouillère ou au restaurant Fournaise dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Les personnes qui fréquentent ces lieux, évidemment, sont des gens qui viennent des couches plutôt défavorisées de la population de l'époque. C'est les ouvriers du 19e siècle. Le poète Emmanuel Destouches qualifie les guinguettes en ces termes. On est là en 1842. Une guinguette est le temple de Bacchus et le petit peuple de Paris se croirait sans religion s'il passait un dimanche sans venir admirer le dieu dans son sanctuaire. Voyez quand même que tout ça naît tôt. On est là en plein dans la monarchie de Juillet, on est sous le règne de Louis-Philippe. Or, sous le règne de Louis-Philippe, que font les petites gens des faubourgs de Paris le dimanche? Eh bien, ils courent au temple du dieu Bacchus, c'est-à-dire dans ses guinguettes. Le Chourineur avait oublié qu'on était au lendemain de la mi-carême, écrit Eugène Sue dans Les Mystères de Paris. Poussé par le reflux de la foule jusqu'auprès d'une des guinguettes dont fourmillent ses boulevards, il assista malgré lui à un spectacle étrange. Dans une vaste salle basse, occupée à l'une de ses extrémités par les musiciens, entourée de bancs et de tables chargées de débris des repas, d'assiettes cassées et de bouteilles renversées, une douzaine d'hommes et de femmes déguisés à moitié ivres se livraient avec emportement à cette danse folle appelée le chahut, justement. Alors, on va voir se développer, justement, ce peuple des faubourgs, avec en même temps que l'industrie, d'ailleurs, tout simplement. Rappelez-vous que Napoléon III modernise considérablement la capitale avec l'aide du baron Haussmann. En 1859, la Chambre des députés vote la fameuse extension de l'agglomération parisienne. Ça veut dire que les 11 petits villages qui étaient autour de Paris, Auteuil-Passy, Batignolles, Monceau, Montmartre, la Chapelle-Saint-Denis, Charonne et Bercy, tous ces petits villages sont d'un seul coup englobés dans la capitale, qui passe de 12 arrondissements à une vingtaine d'arrondissements, et à ce moment-là, on peut le dire, les guinguettes intramuros ont du mal à résister. On va voir le public se précipiter vers des guinguettes un petit peu plus excentrées. Le Moulin de la Galette, le Bal de la Belle en Cuisse à Montmartre, la Grande Chaumière à Montparnasse, bien entendu, les Barreaux Verts à Ménilmontant, qu'on a peut-être tendance à oublier. Les guinguettes vont s'installer de plus en plus en banlieue, et avec la création des lignes de chemin de fer, vous savez que la toute première est née en 1837 pour aller à Saint-Germain-en-Laye, mais dans la foulée, pendant toutes les années 1840 et 1850, on va voir le chemin de fer s'étendre autour de Paris. Bien, avec le chemin de fer, on va développer bien entendu le transport des populations. Le train devient, on appelle ça les trains du plaisir, hein, ces trains du dimanche qui emmènent la population de la ville à la campagne, tout simplement. N'oublions pas pour autant le transport fluvial, car il y a aussi beaucoup de passagers qui se rendent dans ces lieux de plaisir et de distraction qui s'y rendent par voie fluviale. Et puis, au milieu du 19e siècle, apparaît également le canotage. Ça va jouer un rôle absolument essentiel. Que fait-on dans les guinguettes quand on ne danse pas et lorsqu'on a bien bu? Eh bien, on va faire du canot, c'est fondamental. À partir de 1830, nous dit Frédéric Delève, l'imaginaire de la mer s'impose jusqu'aux Parisiens qui vont sur l'eau. La barque séquanaise à fond plat ne leur suffisant plus, ils importent des ports de la Manche, des canots à voile, bientôt copiés et améliorés par les constructeurs de la capitale, pour se promener à Paris et dans ses environs, et pour courir courir les guinguettes, ils se costument en marin, ce qui leur vaut d'être raillés par la presse et les caricaturistes. Les canotiers de 1840, souvent des étudiants, des employés et aussi des artisans, s'associent en mutuelle pour louer ou acheter une embarcation. Leur canotage, à la fois promenade et course à la voile et à l'aviron, n'est pas que l'ancêtre de la navigation de plaisance et des sports nautiques en France, c'est aussi le premier loisir moderne. Un loisir, évidemment, que vont immortaliser les peintres impressionnistes. Et avant eux, enfin au tout début, bien entendu, Renoir. Hein, ses canotiers, son déjeuner des canotiers, ça fait partie de notre imaginaire collectif, bien entendu. Dans les coins de Paris, on est là à la belle époque, on est en 1897, Léo Claretti écrit « Le transport par eau des voyageurs à Paris est un service tout démocratique destiné au public qui travaille. Il paie en semaine 10 centimes pour parcourir 12 kilomètres, on ne saurait à moins. Ce tarif est doublé le dimanche et bien des gens crient à l'exploitation. » Alors, on fait du canot, on danse, on boit, on chante dans les guinguettes. On va voir jusqu'où l'on chante tout à l'heure, bien entendu. Tout ça fait partie du plaisir. N'oublions pas la pêche qui fait partie intégrante des plaisirs dominicaux.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous flânons en votre compagnie, Franck Ferrand, au bord de Marne en ce lundi de Pentecôte. Les guinguettes sont au cœur de l'histoire.
Plus le temps va passer et plus les guinguettes vont avoir tendance à s'installer sur les bords de Marne. Je pense à Joinville-le-Pont, bien entendu, où en 1860 s'installe une première guinguette. Dans le Tour de Marne, en 1865, l'abbé d'Olière et Rousset écrivent « Cette île, il parle de l'île Fanac à Joinville, justement, cette île est devenue le rendez-vous des canotiers et canotières depuis que le restaurateur Julien de Bercy y a transféré son principal établissement. » Il y a créé de magnifiques salons, des cabines confortables et dressé une tente immense sous laquelle les innombrables habitués se livrent chaque dimanche au plaisir d'un bal nautico-champêtre. C'est là, après chaque régate organisée sur la Marne, soit par le sport nautique, soit par la Société des régates, c'est là que se réunit la fine fleur des canotiers et canotières. Il y a des sociétés qui se créent, bien entendu, notamment la Société Nautique de la Marne à Paris dès 1876. N'oubliez pas qu'on se baigne aussi. Il faudra qu'on y revienne tout à l'heure, tiens, à cette notion-là. C'est qu'il y a, le long des guinguettes, devant les guinguettes, il y a des plages. Ce sont des bains publics, bien entendu. Et que ce soit à Joinville-le-Pont, au Perreux-sur-Marne, à Champigny, on organise des baignades publiques, bien entendu. Ce qui veut dire aussi que dans toute cette région-là, les paysages se transforment. On voit ces grandes terrasses, ces plages, ces aires de jeu, ces pontons et ces embarcadères pour les canots et pour les petits bateaux. Enfin, bref, ce sont tous les bords de la Marne qui sont en train de se transformer, qui sont en train de s'adapter au plaisir champêtre du dimanche, tout simplement. Alors on les voit changer. Ces guinguettes, elles sont de plus en plus animées par de petits orchestres avec piano, violon, instruments à vent, etc. On joue la valse, la mazurka, la polka, la friture remplace la matelote et la gibelotte de tout à l'heure. Cette friture, il ne faut pas oublier qu'elle est pêchée sur place, hein, dans les eaux de la Seine. À l'époque, la Seine n'est pas du tout, en tout cas beaucoup moins polluée, mais disons-le, devant l'afflux de clientèle et devant l'extraordinaire quantité qu'il faut fournir chaque dimanche, eh bien on va avoir tendance à acheter ce poisson aux Halles de Paris également. Et on va voir s'organiser tout un transport des Halles vers les guinguettes pour acheminer ce poisson des fritures. Et puis, il y a de nouvelles activités. Je vous parlais de zones de loisirs tout à l'heure et de jeux. On installe des balançoires, des escarpolettes, des toboggans, toutes sortes d'agrès, des jeux de quilles, de boules, le jeu de la grenouille. Vous savez, la grenouille, ça fait comme une espèce de planche inclinée. La grenouille est entourée d'une dizaine de trous et chaque joueur doit envoyer 3 palets en fonte qui doivent passer dans un des trous qui retombent dans des casiers numérotés de 10 à 2000 points. Donc il y a tout un jeu de la grenouille, etc. Et puis, on va avoir de plus en plus le droit d'organiser des réjouissances publiques également. Les guinguettes sont de plus en plus populaires. On assiste à une véritable multiplication. Et bien entendu, les grands écrivains de l'époque, on pense tout de suite à Maupassant, mais Maupassant dans une partie de campagne, bien sûr, mais aussi Émile Zola qui décrit des guinguettes dans Au bonheur des dames. Il nous parle d'un dimanche à Joinville avec des scènes de canotage, des repas, etc. L'idée d'une promenade en canot fut discutée, écrit Émile Zola. Puis ils l'abandonnèrent, Beaugé ramait trop mal, mais leur flânerie au hasard des sentiers, revenaient quand même le long de la Marne. Ils s'intéressaient à la vie de la rivière, aux escadres de yachts et de norvégiennes, aux équipes de canotiers qui la peuplaient. Le soir, on retourna au restaurant de l'île. Finalement, ce qui nous plaît tellement dans les guinguettes, et lorsqu'on feuillette le très bel album dont Martin Penet va nous parler dans un instant, c'est exactement le même phénomène, ce qui nous plaît, ce qui nous ravit dans tout ça. C'est cette espèce d'atmosphère de joie de vivre, de temps partagé, cette atmosphère de bord de l'eau, sous le soleil. On prend le temps d'être, tout simplement. C'est tout un art de vivre. Peut-être que cet art de vivre populaire à la française que nous envie le monde entier, peut-être que c'est dans les guinguettes qu'il aura trouvé sa quintessence, en quelque sorte. On a bien sûr les grands films, on en parlera tout à l'heure, tiens, des films. On a des photographies de ces guinguettes. Le photographe Nadar fréquente à Bougival la guinguette chez Souvent, par exemple, et l'on va voir naître un véritable genre artistique autour de la guinguette. Arrive le 13 juillet 1906 la loi sur le repos hebdomadaire obligatoire. Alors là, il y a des chansons, notamment les petites ouvrières. On se donne rendez-vous pour le dimanche suivant. On arrive à nos gens, tout le monde descend. On va, la chose est sûre, pêcher une friture et l'on monte en bateau. Surtout, pas de blagues sur l'eau. Quelle bonhomie, quelle fraîcheur dans ces plaisirs champêtres de la guinguette. Il y a là véritablement quelque chose d'innocent. Mais alors que l'essor des guinguettes est quasiment sans limite et que le repos dominical amène une nouvelle vague d'habitués, arrive la grande coupure, arrive la guerre de 14-18. Est-ce que cette guerre de 14-18 va mettre fin à la belle époque des guinguettes ? Pas certain, il me semble qu'au contraire, on va voir bientôt les guinguettes renaître encore plus vives et encore plus joyeuses.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les bourgeois ruffins, ceux qui ont les moyens, s'envolent et se faire plumer à Deauville. Quand on n'a pas le sou, on va n'importe où, ou que ça ne coûte pas des fripons. Car à mon avis, c'est pas pour Bibi, les endroits où l'on fait les sichis. Moi, j'ai mon golf et mon bateau, ma plage et mon casino à la Varelle. Moi, j'ai pas ma 40 chevaux, j'y vais avec mon vélo et ça m'entraîne.
Le chanteur Père Chico sur Europe 1, on écoutait à la Varenne. Les guinguettes sont au cœur de l'histoire ce lundi après-midi. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien de la chanson, Martin Penet, auteur avec Francis Bobby et Sophie Orivel du livre Mémoire de guinguettes paru chez Omnibus.
Bonjour Martin Penet.
Bonjour Franck Ferrand.
Alors vous avez écrit un très joli livre, c'est un album avec Francis Bobby et Sophie Orivel. On se promène dans cette atmosphère champêtre, bucolique, dominicale si je puis dire. Et ce que vous montrez, c'est qu'au début, il y a une dimension quasi utilitaire des guinguettes en fait. Hein. On va dans les guinguettes pour payer le vin moins cher tout simplement.
Oui, c'est vraiment ça l'origine de la naissance des guinguettes, qui d'ailleurs n'était pas au bord de l'eau hein,
oui, c'est ça,
dans les premiers temps. Parce que le Paris était plus petit, comme on le sait, donc le principe en fait c'était d'éviter de devoir payer l'octroi, voilà. Et donc le vin coûtait moins cher dès qu'on franchissait les limites de Paris, donc les barrières comme on les appelait, et donc on allait volontiers à l'extérieur pour pouvoir se payer du bon temps et du vin pas cher.
Alors quand même, nous avons tous des souvenirs de Maupassant, etc. Il y a bien une recherche du cadre également et de la nature, objectivement.
Oui, oui, d'autant plus que à l'époque, les environs de Paris étaient beaucoup plus bucoliques. Donc,
bien sûr, ouais.
Alors ça s'est passé dans un premier temps plutôt sur les bords de la Seine au 19e siècle. Et puis donc là, on a les impressionnistes qui aimaient les fréquenter. Donc il reste encore des lieux célèbres comme la Grenouillère, la Maison Fournaise. Bon, ces lieux, on en a le souvenir, hein. On a des associations qui essaient de les faire revivre, mais bon, malheureusement, ils ne sont plus actifs. Et puis, un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, c'est les bords de Marne, en fait, qui vont prendre le pas, parce qu'ils restent plus enchanteurs que les bords bords de Seine qui ont tendance à se construire, à s'industrialiser, absolument.
Sûr, oui. Voilà. Alors que la Marne, ça reste quand même particulièrement préservé, en plus avec de très jolis paysages, des vues sur l'eau qui deviennent intéressantes vers la fin du 19e siècle, on est sensible à ça en fait.
Ah oui, oui, et puis bon, pour les ouvriers, c'est vrai que c'est pas très loin de prendre le train, donc les ouvriers parisiens aiment bien descendre à Nogent par exemple, et puis aller à la Maison Convert qui malheureusement n'existe plus.
Du coup, c'est de Nogent, comme dans la chanson, justement. Si vous vous êtes intéressé à ce sujet, c'est que la guinguette, et heureusement que dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est ce qui reste, c'est d'abord la chanson et la danse quand même. Il y a de la musique dans les guinguettes.
Ah voilà, ça fait partie des ingrédients indispensables. Donc là, on peut dire que la formule de la guinguette, c'est la restauration, assez simple, hein, souvent c'est une friture, une matelote, des frites, du vin blanc, ça c'est très important, et puis effectivement la danse qui se passe d'abord avec des instruments, l'accordéon est venu un peu plus tard, mm-hmm. Au départ c'était pas ces instruments-là.
C'était quoi au début alors ?
Des instruments à vent, il y avait la guitare, et il y avait les Auvergnats qui jouaient de la cabrette, vous savez, une sorte de petite cornemuse, et puis piano éventuellement, et puis l'accordéon en fait est arrivé plutôt au début du XXe siècle.
Ah, c'est assez étrange, on a l'image d'une guinguette à l'accordéon. Mais
oui,
en fait,
parce que finalement, ça a été l'âge d'or des guinguettes au cours du XXe siècle, ça a été à l'accordéon.
Alors c'est quand justement ? C'est l'entre-deux-guerres ?
Oui, l'âge d'or, c'est vraiment l'entre-deux-guerres. Bon, on a tous le souvenir du Front Populaire, bien évidemment,
bien sûr,
qui a beaucoup marqué le moment où on avait envie de se détendre et où les congés payés ont permis d'aller un peu plus loin, mais tout le monde ne pouvait pas partir. Donc on allait passer aussi l'été, tout simplement, au bord de l'eau, pas loin de Paris.
Est-ce qu'il y a des jours de guinguette, si je puis dire ? Est-ce que le dimanche, par exemple,
c'est surtout le dimanche, d'autant plus que le repos obligatoire hebdomadaire qui a été instauré par une loi de 1906 était donc le dimanche. Et c'est d'ailleurs à partir de cette date que ça a amené un beaucoup plus gros afflux, par exemple les ouvriers, parce que là, ils étaient obligés d'aller se détendre, parce qu'avant, certains travaillaient tous les jours.
Il reste des guinguettes aujourd'hui sur les bords de Marne, bien entendu. Parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont prévu d'y aller là dans l'après-midi, mais ce sont quand même d'assez petits établissements. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à une certaine époque, dans l'entre-deux-guerres, tout ça prend de l'extension quand même. Ce sont, pour certains en tout cas, d'assez gros établissements.
Oui, il reste par exemple chez Gégène, qui est quand même assez important,
qui
a été fondé en 1914 et qui n'a fait que croître et embellir avec presque un petit parc d'attractions, avec des balançoires, toutes sortes de jeux, et puis une salle de danse. Et puis maintenant, on a construit une deuxième salle de danse, donc finalement, l'aspect attraction a disparu. Et puis donc maintenant, c'est un dancing avant tout, quoi, et un restaurant.
Un dancing où on continue quand même à avoir une certaine tradition musicale, mais de temps en temps, on sacrifie aux airs à la mode aussi, bien sûr.
Oui, ça fait partie de l'évolution des guinguettes. C'est-à-dire que à propos de l'accordéon, donc qui a eu un grand âge d'or pendant tout l'entre-deux-guerres, ça a continué après la libération. Il y a une sorte de retour, puisque pendant la guerre c'était fermé, on avait une interdiction de danser, donc les guinguettes se sont reconverties quand elles ont pu en restaurant. Et puis avec la libération, on a une euphorie de.
Alors bien sûr. Alors on va venir à tout ça, on va venir au style musette, ce qu'on appelle le musette, bien entendu. Mais avant ça, quelques noms peut-être de grands établissements. Quelles sont les guinguettes qui ont marché, si je puis dire ?
Alors, je vais vous en citer quelques-unes. De l'entre-deux-guerres, donc évidemment, à Nogent, on avait le Casino Tanton, on avait la Maison Convert, on avait Au Grand Robinson, le Casino du Viaduc, et le vieux pêcheur à la jambe de bois. Vous voyez, c'est vraiment des noms très évocateurs. À Joinville-le-Pont, qui est donc en face, de l'autre côté de la Marne. Donc, on avait le Pompéi Palace, le Petit Robinson, chez Gégène, qu'on a cité, chez Max, Julien, la Petite Chaumière, et les bibelots du diable. Vous voyez, donc il y avait beaucoup beaucoup d'établissements. Et puis alors, si on va un petit peu plus loin, il y avait les baignades Saint-Maurice, plus près.
Là il y a des bains en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mmh. Et parce qu'en fait on se baignait dans la Marne, on avait le droit de se baigner à l'époque.
Bien sûr, oui, jusqu'à une période relativement récente.
L'interdiction de se baigner, c'est 1970 à cause de la pollution.
Évidemment.
Voilà. Donc c'était très prisé, hein. C'est pour ça aussi que les guinguettes se sont mises au bord de l'eau, c'était une sorte de lieu de loisir au sens large.
C'est un loisir complet,
c'est ça. Voilà, il y avait le canotage, la baignade, de la, donc les
même les pédalos après les, un peu
donc,
plus tard,
les repas, donc la bonne chère, la danse, les flirts bien sûr dans les bosquets. Enfin voilà, donc tout ça c'était une sorte de cocktail assez bien huilé, si je puis dire, pour les détentes du week-end.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a le flirt d'abord d'une certaine manière? Est-ce que ce sont pas d'abord des lieux galants, les guinguettes?
Oui, enfin, évidemment, on peut se donner des rendez-vous là. En fait, on peut surtout, comme disent certaines chansons, faire des rencontres et se donner rendez-vous le dimanche d'après. Voilà,
Il y a une clientèle fidèle qui...
Oui, bien évidemment.
Ouais, c'est ça. Oui. Donc les gens reviennent. Et comment est-ce qu'ils se rendent à la guinguette en train, j'imagine?
Oui, pour aller à Nogent et à Joinville, qui étaient donc les lieux principaux, ou un petit peu plus loin, parce que la ligne de chemin de fer continuait, on partait de la gare de la Bastille, qui a disparu aujourd'hui, qui donc maintenant est remplacée par le RER A. Donc c'est à peu près le même parcours, avec les mêmes stations, sauf que les gares ont été refaites. Donc à Nogent, c'est plus du tout comme avant. Maintenant, c'est en souterrain, c'est un peu moins enchanteur, quoi. Mais il y avait donc une grande côte à descendre pour aller jusqu'au bord de la Marne. Celle-là, elle existe toujours, sauf qu'il n'y a plus les guinguettes, c'est ça le problème.
J'ai toujours à l'esprit le très beau film de Bertrand Tavernier, Dimanche à la campagne, oui. Où la jeune fille de la maison qui débarque de Paris et qui est très lancée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est jouée par Sabine Nazema, emmène son vieux papa boire un verre à la guinguette du coin. Ça, c'est pour le cinéma récent, si je puis dire, mais il y a eu des films qui ont définitivement donné ces lettres de noblesse à la guinguette. On pense d'abord à Casque d'or, bien sûr.
Hein. Oui, on pense à Casque d'or, qui est avec Simone Signoret, Serge Reggiani, film de Jacques Becker du début des années 50, qui évoque en fait ces figures des Apaches de l'Est parisien au début du XXe siècle et qui allait donc le dimanche aussi, voire peut-être même un peu plus en semaine, se détendre à la guinguette. Mais donc en fait c'était des figures parisiennes, si vous voulez. Donc là on mélange un peu le côté mauvais garçon et le côté détente enchanteresse. Donc ça fait partie de cette mythologie que les guinguettes étaient fréquentées aussi par les mauvais garçons.
Mais alors, il y a quelque chose de très profondément populaire dans la guinguette. Il faut souligner cette dimension-là. C'est l'amusement, c'est la distraction, c'est le délassement du peuple, au sens social du mot. C'est-à-dire qu'on est dans les catégories plutôt défavorisées de la population. Et ceux qui viennent et qui appartiennent à d'autres catégories viennent plutôt s'encanailler.
Absolument.
Même, hein.
Mais il faut dire aussi que les guinguettes, c'est pas cher. Quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Et puis le trajet de train est assez économique aussi. Donc c'est du bonheur pour pas cher. Comme le dit une autre chanson chantée par Jean Gabin dans La Belle Équipe, quand on se promène au bord de l'eau. Et comme vous parliez du cinéma, ça c'est un film très marquant aussi, de 1936.
Formidable.
Film de Julien Duvivier qui évoque précisément cet univers des guinguettes. Et donc là le prétexte,
c'est la Belle Équipe,
c'est ça, donc des ouvriers qui gagnent à la loterie et qui décident d'investir leurs gains dans la création d'une guinguette au bord de l'eau, voilà, tout simplement. Et puis donc il y a un autre film important aussi qui était plus ancien, qui est une sorte de documentaire, qui est le tout premier film de Marcel Carné, tourné en 1929, un film muet de 20 minutes qui s'appelle Nogent, Eldorado du dimanche, et qui là n'est pas un film de fiction mais vraiment un reportage qu'il a fait. C'était avec une sorte de galop d'essai, et donc il a choisi comme sujet d'aller filmer toute la journée par petites séquences du programme en quelque sorte des ouvriers qui quittent Paris en train et qui rentre le soir, et tout ce qui se passe entre les deux. Et c'est très très beau.
Je ne connais pas ce film, ça donne très envie.
Je vous le recommande. C'est vraiment un super document sur les guinguettes, c'est peut-être le plus beau qui existe. Et en plus, il a été filmé en 29, donc vraiment en plein âge d'or.
Oui, c'est ça. Le 29, on est au sommet, en quelque sorte, juste avant l'arrivée en France de la crise, au sommet de cet âge d'or des guinguettes. Vous appelez ça comment, le film de Marcel Carné?
Nogent, Eldorado du dimanche.
Ah, tout est dit, finalement. Alors, à Nogent, on danse, on chante, nous allons venir au style qu'on appelle le style musette, qui est né dans les guinguettes ou qui s'y est développé?
Oui, c'est plutôt développé. À vrai dire, il est né à Paris. Alors, c'est une sorte de musique métissée, c'est très à la mode maintenant de dire ça, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est né de la rencontre des Auvergnats qui étaient déjà installés à Paris dans les arrondissements de l'Est, et des Italiens qui sont arrivés un petit peu plus tard, dans les dernières années du 19e siècle, à peu près dans les mêmes quartiers, et qui se sont infiltrés en quelque sorte dans les bals auvergnats, où on jouait uniquement de la cabrette, donc une sorte de petite cornemuse qui était l'instrument typique donc des auvergnats, des bals de famille, et eux apportaient l'accordéon qu'ils fabriquaient en assez grande quantité dans certaines régions d'Italie, et donc pour eux c'était une tradition. Mais en fait c'est un instrument qui est plus ancien, hein, qui est né dans les années 1830.
Oui, bien sûr, hein, ouais.
Donc, mais enfin bon, en tout cas, il était beaucoup plus répandu en Italie et ils l'ont popularisé. Et il y a eu quand même des conflits un petit peu, hein, parce que la rencontre entre les Auvergnats et les Italiens, au début, ça donnait lieu à quelques rixes. Et puis bon, finalement, tout s'est arrangé. Les Auvergnats ont fini.
Tout a fini par des chansons.
Voilà, par des chansons et par des danses. Et donc, il y a une sorte d'agrément dans les toutes premières années du XXe siècle qui s'est déroulé rue de Lappe, qui était un haut lieu de bal musette. Hein, donc on n'est pas dans les guinguettes, là, on est vraiment dans les bal musettes de Paris. Et puis forcément, ça s'est exporté et puis ça essaimé jusque dans les guinguettes. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
La guinguette est devenue le bal musette diurne du dimanche, en quelque sorte.
Exactement.
Alors, les chansons, c'est votre domaine et nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
On a chanté bien souvent les plaisirs des 20 ans, les dimanches de printemps. Mais ce qu'on a tant chanté avec la liberté revient d'actualité. Nous revivons tout joyeux les instants merveilleux si chers aux amoureux. Nous retrouvons comme un plaisir nouveau les petits ballons au bord de l'eau. Voici le retour des guinguettes à nos gens comme à Robinson. Toutes les filles perdent de la tête, on peut faire des conquêtes dans chaque buisson. La valse musette nous invite à chanter sa jolie chanson. C'est le cœur de Paris qui palpite quand on danse en passant au son de l'accordéon.
Au cœur des guinguettes avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, l'historien de la chanson, Martin Péné. Nous écoutions à l'instant André Dalte avec Le Retour des guinguettes.
Le Retour des guinguettes. Alors là, on est en 1945, on est dans la fièvre de la libération et de la joie de vivre retrouvée d'une certaine manière.
Tout à fait retrouvé, puisque donc on avait interdiction de danser pendant toutes les années de l'occupation. Et donc là, c'est une véritable euphorie dans les années de l'immédiate après-guerre. Et donc, les danses traditionnelles comme la valse musette, la java, le tango fonctionnent encore assez bien. Mais on va voir progressivement arriver de nouveaux rythmes, comme le bebop, le swing, et puis aussi des danses exotiques comme la rumba, la samba. Et donc, tout ça va se mêler et va quand même un petit peu menacer le style musette traditionnel.
Oui, voilà. Il y a des défenseurs du temple, en quelque sorte. Il y a des gardiens, des gens qui disent, attention, ne dégénérons pas.
Il y a des très bons accordéonistes, comme Joe Privat par exemple, qui est une sorte de puriste, un très très bon accordéoniste qui se produisait d'ailleurs aussi au Balajour, rue de Lappe, et de temps en temps donc dans les guinguettes. Et lui, on peut dire qu'il est, dans l'immédiate après-guerre, c'est un des grands représentants de l'accordéon qui dure.
Alors on a commencé l'émission comme ça tout à l'heure, mais quand on se promène au bord de l'eau, c'est quand même la grande chanson, c'est celle qui vient d'abord à l'esprit, elle est plus ancienne celle-ci.
Oui, elle est de 1936.
Ouais.
En fait, c'est un peu un symbole.
C'est les congés payés, oui,
voilà,
c'est ça.
Voilà. Ouais. Même si, en fait, elle a été créée après l'été 36, parce que le film est sorti à l'automne. Et le film, qui s'appelait La Belle Équipe, se termine un peu mal. C'est comme si jamais le parfum du Front Populaire était déjà un peu passé. Vous voyez, au départ, Julien Duvivier avait fait une fin un peu triste. Et puis, pour que ça soit quand même admis par le public, on lui a demandé de retourner.
De refaire sa fin. En fait.
Voilà, et de faire une fin un petit peu plus joyeuse. Mais lui, il avait dans l'esprit quand même que
quelque
chose d'assez sombre qui se terminait par un meurtre. Enfin voilà, donc une affaire sentimentale qui tournait très mal. Et donc c'était aussi comme...
Justement, est-ce que la chanson réaliste, je pense au Fréhel, au Damia, etc., est-ce que cette chanson réaliste a gagné les guinguettes à une époque?
Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Damia qui date précisément du Front Populaire, qui s'appelle Aux quatre coins de la banlieue. Mm-hmm. Et c'est une chanson que je trouve vraiment formidable, qu'on pourrait peut-être entendre.
Écoutons-la si vous le voulez.
Dans le train, en vitesse à 7h du matin, un ouvrage, un bouquin, chacun s'installe dans son coin et l'on va travailler, gagner son pain. Des murs noirs le long du parcours, c'est tout ce que l'on peut voir. Des faubourgs enfumés, des avenues désolées, mais tout se transforme soudain. Dimanche, on entend de la musique. C'est à celui qui fera le plus bruit. Oh, nos pianos mécaniques. On danse et l'on part, on nage ce jour-là. Et quand on s'amuse, une journée, c'est si vite passé. Aux quatre coins de la
Aux quatre coins de la banlieue, c'est Damia qui chantait. On est là encore dans les années 30. Hein.
Oui, 1936. Et donc là, pour moi, c'est une chanson très très symbolique de vraiment l'esprit du Front populaire, de cette envie que les ouvriers avaient de pouvoir se détendre et peut-être un peu plus longtemps que juste le dimanche. Et donc ça, c'était grâce aux 15 jours de congés payés qui ont été votés, comme vous le savez, en juin 1936.
Alors est-ce que le grand moment des guinguettes, c'est la fin du 19e siècle? Est-ce que c'est l'avant-première guerre mondiale? Est-ce que c'est l'entre-deux-guerres? Est-ce que ce ne serait pas finalement un peu l'après-guerre aussi? On a l'impression que dans ces années 45-50, même encore pendant l'occupation, déjà pendant l'occupation, je pense à Le Petit Vin Blanc, c'est une chanson de l'occupation.
Oui, alors c'est ça qui est paradoxal. C'est une chanson qui a été écrite en 1943, alors que les guinguettes étaient fermées. Mais c'est une sorte de d'évocation et ça annonçait en quelque sorte la libération, puisqu'elle a eu un succès phénoménal en 45, cette chanson. Et donc, les paroles sont de Jean-André Jacques et il l'a écrite précisément au bord de l'eau, quand il était là-bas et il se promenait là-bas. Et donc, ça l'a vraiment inspiré et c'était particulièrement bien vu, puisque cette chanson a eu un succès mais phénoménal. Et aujourd'hui, elle est encore très connue. C'est devenu un peu le symbole de nos gens, où malheureusement, il n'y a plus de guinguettes, mais à la libération, il y en avait encore, et de tout cet esprit des guinguettes qui perdure. Heureusement.
J'ai tout à l'heure fait un écho terrible quand vous avez parlé de Joinville-le-Pont, bien entendu. Oui. Ça fait penser
à Bourville, peut-être.
À Bourville, hein, voilà. Et moi, j'allais dire à Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Voilà, enfin, bon. C'est les deux, deux, puisque la chanson était écrite par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
D'Europe 1.
Et a été enregistrée d'abord par Bourville, et la musique et d'Étienne Lorrain, qui était l'accordéoniste de Bourville. Donc vous voyez, il y avait des raisons quand même. Et est-ce que ce soit Bourville qui l'enregistre en premier? Et effectivement, il en a fait un énorme succès, et ça portait au nu, je dirais, cette guinguette qui existait déjà avant, qui s'appelait Chez Gégène, qui existe toujours.
Alors, il y a des chanteurs populaires qui se sont mis à la guinguette et au style musette aussi, bien sûr. Puisqu'on parle de la libération des années 50, etc. C'est Annie Cordy, notamment, qui
était
là.
Oui, alors là, on est aussi dans cette époque encore euphorique des années 50. Ça va bien changer après, mais là, on est encore dans la fin de l'âge d'or, je dirais. Et donc, il y a une chanson de 1954 qui s'appelle « Viens à nos gens » et qui ne parle pas strictement des guinguettes, mais de la fête du Petit Vin Blanc qui a été précisément inaugurée cette année-là par le maire de Nogent, qui s'appelait Roland Nagesser. Et donc, cette fête qui a connu des hauts et des bas. Je crois qu'elle existe encore, mais enfin bon, il y a eu des périodes avec et des périodes sans. Mais ça, à l'époque, ça a drainé un monde mais incroyable à nos gens ce jour-là, et pour vraiment faire la fête, si on peut dire. Et on a eu également d'autres fêtes qui ont été créées plus tard dans les autres communes, mais celle-là a été vraiment très très importante.
Alors attention, voilà l'ennemi. Quand je dis l'ennemi, c'est le micro-sillon. Ça a été terrible pour les guinguettes. Quand on peut écouter soi-même des chansons et danser chez soi, là, on n'a plus besoin d'aller à la guinguette. La télévision qui arrive au tournant des années 1960, l'automobile qui permet de se déplacer tout seul, on n'a plus besoin d'aller dans des lieux, si je puis dire, circonscrits. Enfin, un changement de vie, tout simplement. Hein. Les années 60, et alors 70, n'en parlons pas, ne sont pas propices à la guinguette.
Non, alors, il y a aussi l'évolution de la législation. C'est qu'en 1956, on passe à 3 semaines de congés payés.
Ah oui.
Également, au début des années 50, il y a de point de vue social, des charges qui sont instaurées pour les cachets des musiciens. Ce qui a à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça leur assure une meilleure protection.
Pour les musiciens, voilà. Mais un inconvénient pour le genre. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand même, les pauvres, ils étaient quand même dans une grande précarité, et donc ça leur a donné un statut un peu plus stable, on va dire, et un peu plus pérenne pour leurs vieux jours. Mais en revanche, du coup, les orchestres coûtaient beaucoup plus cher, et ça a précipité un petit peu le déclin. Donc, vous voyez, c'était un double tranchant.
Le paradoxe, c'est que au moment même où les guinguettes sont en plein déclin, on voit le genre, lui, se populariser à travers toute la France, c'est les dancings. On construit partout des dancings à la sortie des villages.
En fait, c'est pas exactement des dancings, ce sont des bals champêtres.
Enfin, des bals champêtres,
voilà.
Pardon. Oui.
Et donc, ça se déroule souvent sous des chapiteaux qu'on érige pour l'occasion. Et là, ça draine des grandes foules. Là, c'est d'un cadre beaucoup plus étendu, si on veut dire, que celui de la guinguette. Et donc là, on a l'amplification, le micro, on a des accordéonistes vedettes qui font un peu leur numéro, qui adoptent tous les rythmes du jour. Donc là, même ils se mettent au rock dans les années fin 50, début 60, ils essaient de suivre un petit peu le mouvement, mais Le problème, c'est que d'une certaine façon, ça, dans l'esprit de certains, ça ringardise un petit peu le genre, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu à double tranchant. C'est qu'on veut rester populaire et puis en même temps, on perd un peu son âme, quoi.
Et en même temps, parmi tous ceux qui nous écoutent, combien se sont rencontrés dans ces balles champêtres?
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de couples qui se sont formés là.
Il y a le pour et le contre à chaque fois. Ouais. Hein. Et puis donc finalement, c'est vrai qu'au cours des années 60, ça va vraiment décliner et encore plus dans les années 70. Et il faut attendre les années 80 pour que l'accordéon retrouve une certaine place.
Noblesse, oui.
Mais grâce à la chanson. Grâce à la chanson et à certains pionniers.
Il y a les grands chanteurs. Il y a Guy Béard avec Balche Temporelle et tout ça, bien entendu. Je vous propose d'écouter Les Guinguettes. C'est Alain Barrière et c'est déjà nostalgique.
Ah oui.
Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau, bon sang, c'est chouette. Tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, le père Renoir nous vendrait son tout dernier tableau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Mais la Marne a coulé tant et tant coulé pour passer le temps. Et tant est oublié cette vaste passée, son lustre d'antan. Adieu ma jambe et adieu les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Les romans bleus vont se tisser ailleurs et dans d'autres berceaux. Fini la fête, le populo parti, fini le caboulot. Mais c'était chouette pour toutes les Juliettes et tous les Roméo.
Alain Barrière, Les Guinguettes. Alors évidemment la chanson et d'une façon plus générale les arts vont s'emparer de ce climat, de cette atmosphère de la guinguette. Il y a eu une sorte de revival dans les années 80-90 d'ailleurs. Il y a des groupes qui font de, comment on appelle ça, le...
Alors, il y a eu le rock musette. Et il y a eu la chanson néo-réaliste, enfin, moi c'est comme ça que je l'appelle. Oui. Et donc c'est effectivement au cours des années début 90. Alors il y a plusieurs phénomènes en parallèle. Il y a d'abord la redécouverte du patrimoine du musette précisément grâce à des passionnés, des collectionneurs d'instruments, des musiciens, et une aventure discographique qui s'appelle Paris Musette, et où donc c'est un petit peu comme Buena Vista Social Club pour Cuba, mais là c'est pour Paris, et on va donc chercher des accordéonistes qui peut-être jouent un peu moins, des vrais, des purs, des gens qui avaient connu la grande époque, et qui donc vont se mettre en commun et refaire des disques à l'ancienne, avec
vintage.
Même parfois le style un peu manouche, vous voyez, l'influence des gitans dans la façon de jouer à la guitare, donc ça se mélange avec l'accordéon et ça donne le swing musette, donc ça c'était quelque chose qui avait très très bien marché pendant les années 40, et donc on redécouvre tout ça dans les années 90, donc ça c'est pour l'aspect strictement musical, et puis pour l'aspect chanson, il y a également tout le phénomène des rééditions en CD de tous les vieux 78 tours des années 30, et qui fait qu'on redécouvre tout ce patrimoine, vous parliez de Damien Fréhel et bien d'autres, et de jeunes rockers, par exemple le groupe Pigalle, lance un CD qui s'appelle Ma grand-mère était une rockeuse. Et donc ils redécouvrent tout ce patrimoine avec Edith Piaf, etc. Et donc ça va inspirer des jeunes groupes. Et c'est ça qui va finalement relancer toute cette mémoire, mais revisitée à la sauce d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Martin Penet. Mémoire de Guinguette avec Francis Bobby et Sophie Orivel. C'est édité chez Omnibus et c'est un très bel album qui fait rêver. Le mieux c'est peut-être encore d'aller à la Guinguette.
Excellent lundi de Pentecôte sur Europe 1. Vous restez avec nous au cœur de l'histoire continue et vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de l'or sur l'origine de l'expression « toucher le pactole ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et voici la question de l'or sur la page Facebook de l'émission. L'or vous demande, Franck Ferrand, de revenir sur les origines mythologiques de l'expression « toucher le pactole ».
Ah oui, toucher le pactole. Vous savez que le pactole n'est un nom commun que depuis une période relativement récente. Je crois qu'il apparaît dans le dictionnaire aux alentours de 1800 seulement. Le pactole, au début, c'est un nom propre. C'est le nom d'une rivière qui se situe en Lydie. La Lydie, c'est dans l'actuelle Turquie. Une rivière qui prend le nom d'un dieu Pactolos. Pourquoi ? Parce que Pactolos se serait simplement suicidé en se jetant dans les courants de cette rivière. Alors avant cela, la rivière en question était appelée Crousoroas, le fleuve d'or. Pourquoi ? Parce que simplement, Il charriait en quantité des paillettes d'or. Hein. Il y avait de l'or qui était charrié par ses eaux. Alors, pourquoi le pactole regorge-t-il d'or? Eh bien, la mythologie nous l'explique. Parce que le roi de Phrygie, Midas, vous voyez, ce roi Midas, je vous raconte son histoire en deux mots. Il était connu pour son avarice, pour son avidité. Il rencontre Dionysos. Le dieu lui offre de réaliser un de ses vœux. Et le roi demande qu'on lui accorde de pouvoir transformer en or tout ce qu'il touchera. Oh, ben, dit Dionysos, si ce n'est que cela, qu'à cela ne tienne. Midas va pouvoir devenir l'homme le plus riche, le plus puissant du monde. Oui, sauf qu'il comprend aussi que, évidemment, tout ce qu'il va toucher, se transformant en or, y compris la nourriture, y compris l'eau, eh bien, Midas est condamné à mort. Alors il demande, il supplie Dionysos d'annuler l'enchantement. Pour ce faire, il va devoir se laver les mains dans le fameux fleuve, dans le fleuve Pactole. Voilà pourquoi, dit-on, le pactole regorgeait d'or, et voilà pourquoi le mot pactole est devenu, au sens commun du terme, synonyme de trésor. Marion Ruggieri est arrivée. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Peut-on s'aimer à tout âge? La réponse est évidemment oui, même si cela reste encore tabou aujourd'hui. Pourquoi les seniors ont une sexualité de plus en plus active et revendiquée? On en parle avec le sexologue Gérard Leleu et avec l'écrivain Grégoire Delacour qui publie un très joli roman, Les 4 saisons de l'été.
Merci beaucoup chère Marion. Eh bien écoutez, nous nous retrouvons demain chère Ombline.
À demain Franck.